Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Lorsque nous examinons le sujet de la philosophie en Iran, nous nous rendons compte que nous n'avons malheureusement pas assez de livres en langue persane sur ce domaine de recherche ainsi que sur la philosophie islamique en général dans le pays. Cela nous a encouragés à avoir un regard rétrospectif, quoique bref, sur le statut de la philosophie et des philosophes dans le pays. Dans ce nouvel épisode de l'émission « Histoire de la science en Iran », nous nous intéressons à la pensée philosophique d'Avicenne. Merci de nous accompagner jusqu'à la fin du programme. Abu Ali Hossein ibn Abdallah ibn Sina est né en 980 après Jésus-Christ à proximité de la ville de Bukhara. Connu sous le nom d'Avicenne, il était un célèbre philosophe et un célèbre médecin iranien. La pensée philosophique d'Avicenne a eu un impact remarquable sur la pensée philosophique islamique, la philosophie européenne ayant été la source des innovations dans la structure de la pensée péripatétique. L'époque à laquelle il a vécu peut être appelée l'âge d'or, ou plus précisément l'ère de la Renaissance islamique en termes de prospérité intellectuelle, culturelle, scientifique et de certaines libertés sociales. La vie d'Avicenne, de la naissance à la mort, s'est déroulée sous le territoire iranien et sous le règne des deux dynasties Bouyides et Sassanides. Cela nous prouve à quel point le philosophe et médecin iranien a été influencé par ces atmosphères. En ce qui concerne le rôle d'Avicenne dans la philosophie politique islamique et en d'autres termes sa place dans ce système philosophique, diverses idées ont été exprimées par différents chercheurs et théoriciens. La première théorie soutient qu'Avicenne, à l'image de son successeur Farabi, a eu un rôle fondateur dans la philosophie politique islamique et la raison en est que la philosophie d'Avicenne est associée à la religion. Selon la seconde théorie, Avicenne poursuit et développe la philosophie politique islamique. Son rôle est donc la continuation de celui de Farabi et on ne peut soutenir qu'il a joué un rôle dans l'établissement de la philosophie islamique ou qu'il s'inscrit dans la lignée de son maître et son successeur Farabi. La troisième théorie défend l'idée qu'il a à la fois un rôle fondateur dans la philosophie politique islamique et un rôle d'intermédiaire qui donne de l'élan à la philosophie. Mais finalement, les chercheurs ont conclu que le grand Avicenne n'a pas été le fondateur de la philosophie politique islamique, mais il a développé et fait évoluer la philosophie politique islamique dont le philosophe iranien Farabi a été le fondateur. La pensée philosophique d'Avicenne, en général et surtout en termes de certains de ses principes, a eu l'impact le plus profond et le plus durable sur la pensée philosophique islamique après lui et sur la philosophie européenne du Moyen-Âge. Ce système philosophique est un mélange des éléments fondamentaux les plus importants de la philosophie aristotélicienne et de certains éléments de la vision du monde néoplatonicienne, en lien avec la vision du monde religieux islamique. Malgré cela, ce philosophe iranien est avant tout un disciple d'Aristote. mais cet attachement à Aristote est loin d'être un aveuglement. Avicenne suit les grandes lignes de la pensée fondamentale d'Aristote et innove occasionnellement et ça et là dans la structure de la pensée péripatétique. Il clarifie les points ambigus de la pensée d'Aristote, il ajoute parfois, enfin il essaie de fonder une nouvelle pensée philosophique en s'appuyant sur les éléments des idées platoniciennes et néoplatoniciennes. Ceci étant, ses efforts sont restés inachevés en raison de sa mort inattendue. Avicenne a appelé son nouveau système philosophique qu'il avait l'intention de compléter la philosophie orientale. De nombreuses idées ont été exprimées sur la philosophie orientale par des chercheurs depuis des années. Cette question a été soulevée pour la première fois par l'orientaliste italien Nalino dans un article publié dans Journal of Oriental Studies. Dans cet article, l'auteur montre que la pensée d'Avicenne relève de la philosophie orientale et non de la philosophie illuminative. Parmi les écrits publiés d'Avicenne, il y a un petit livre avec le titre choisi par l'éditeur Manter al-Masharain qui fait apparemment partie du livre de Hikmat al-Mashariya. Avicenne lui-même s'y réfère comme s'il avait introduit une nouvelle philosophie en elle, autre que celle qu'on peut trouver parmi les partisans de la philosophie illuminative. Un endroit dans son introduction au livre d'Al-Shifa, il dit: outre ces deux livres, j'ai un autre livre dans lequel j'ai présenté la philosophie telle qu'elle est dans sa nature. Se référant à son livre Philosophie orientale, il conseille à ceux qui recherchent la vérité sans équivoque de la chercher dans son philosophie orientale. D'après ce que le grand savant Avicenne a mentionné à la fois dans les introductions à son ouvrage Al-Shifa et dans Manter al-Masharain, il s'ensuit qu'il a écrit la philosophie orientale avant de terminer Al-Shifa. Maintenant, la question se pose de savoir si Avicenne avait vraiment l'intention de présenter une nouvelle vision philosophique dans sa philosophie orientale, autre que ce qui est connu dans la tradition de la philosophie illuminative. D'une part, on ne voit pas beaucoup de signes d'innovation dans Manter al-Masharain, qui n'était qu'une courte partie du grand projet de la philosophie orientale. Comme nous l'avons vu, les propres remarques d'Avicenne dans la préface sur Manter al-Masharain soulignent également que ce grand savant est resté fidèle à la philosophie illuminative. Mais d'autre part, dans certains autres écrits d'Avicenne, comme Al-Isharat wa Al-Tanbihat, et surtout dans ses traités mystiques, ainsi que dans les parties restantes de son livre Al-Ansaf, une tendance vers une nouvelle approche philosophique est révélée, mais même dans de tels écrits, les principes fondamentaux de la pensée d'Avicenne ont les mêmes principes aristotéliciens illuminatifs mélangés à des éléments proéminents de la vision néoplatonicienne. L'ontologie constitue l'axe principal du système philosophique d'Avicenne qui joue un rôle décisif tant dans sa métaphysique au sens général que dans sa théologie au sens spécifique. Et c'est alors qu'il considère l'existence de Dieu non pas comme le sujet de la philosophie première, mais comme l'un de ses contenus. Une autre question importante dans la philosophie d'Avicenne qui peut être considérée comme l'axe principal de son ontologie ainsi que de son système mondial est la distinction entre l'existence et la nature. Bien qu'il n'ait même pas de recherche indépendante sur cette question, comme s'il la considérait comme une évidence qui ne nécessite pas d'arguments et de preuves, chaque fois qu'il la rencontre pourtant au cours de ses recherches, il souligne explicitement avec insistance l'importance de distinguer l'existence et la nature. Il serait peut-être juste de dire que son accent mis sur cette distinction est la raison pour laquelle il fait bon nombre de ses discussions théologiques et cosmologiques sur ce principe. Maintenant, on peut se demander où on devrait chercher la source du principe sinaïtique de différenciation. En réponse, on peut dire que son noyau se trouve chez Aristote. Aristote dit à ce sujet « Mais la question de ce qu'est l'être humain et l'existence humaine sont de significations différentes. Mais cette distinction pour Aristote est une distinction logique, tandis qu'Avicenne élargit cette distinction logique et la transforme en une distinction ontologique. » Avicenne reprend la théorie aristotélicienne des quatre causes. Mais il est le premier à concevoir la causalité efficiente de Dieu. Ibn Sina distingue ainsi la philosophie naturelle ou la physique et la théologie ou la métaphysique. Le métaphysicien tient un discours sur la cause très différente du naturaliste. Par agent, le métaphysicien ne veut pas seulement dire le principe du mouvement, comme le naturaliste veut le dire, mais le principe est l'origine de l'existence, comme dans le cas de Dieu à l'égard du monde.